been gone 2 weeks.
Bonjour à tous. Comme un jeudi, à la veille de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, dans la deuxième partie de la Grande Table, nous recevons la philosophe Geneviève Fraisse, auteure de La sexuation du monde, et la sociologue Juliette Rennes pour son encyclopédie critique du genre, Corps des femmes, quels enjeux politiques, rendez-vous à partir de 12h55. Mais d'abord, section spéciale, Missing, You, exit le compartiment tueur, où vous serez toujours l'homme de trop, en état de siège. À 12h02, l'heure de l'aveu, je serai votre Anaka, votre claire de femme qui signe d'un Z comme Costa Gavras pour le premier volume d'une intégrale de ses films chez Arte Éditions. Le cinéaste est notre invité jusqu'à 12h30. À écouter maintenant sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr. Bienvenue à tous.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
He's been gone 2 weeks. And I don't know, they give me the same song and dance over and over again. He could be hurt or tortured. They don't give a goddamn about him.
Oh, look, really, I don't want to hear any of your anti-establishment paranoia.
Paranoïa, frisson, suspense, éthique, thriller politique, disparition et coup d'État au Chili dans Missing, dictature des colonels et mort d'un député dans Z, négation de l'individu et procès stalinien dans L'aveu, la justice sous Vichy et donc l'injustice dans section spéciale, ingérence américaine contre les luttes sud-américaines avec état de siège, 9 films réalisés entre 1965 et 1983, 9 DVD donc en version restaurée supervisée par le réalisateur lui-même, président de la Cinémathèque. 50 ans de carrière aujourd'hui, mieux qu'un prétexte, l'occasion de recevoir Costa Gavras. Bonjour.
Bonjour.
Calimera. Un demi-siècle, une vie de cinéma, Costa Gavras, c'est une coïncidence ou c'était une évidence pour vous, le cinéma ?
Le cinéma, c'est devenu très vite une évidence dès que je suis arrivé en France. J'ai commencé des études, de la littérature, et très vite j'ai découvert le cinéma, la Cinémathèque. Et j'ai décidé d'essayer d'écrire des histoires avec des images, ce qu'est le cinéma.
Voilà. Que ce serait votre langage. Ouais. Vous êtes aussi un grand cinéphile, c'est pas pour rien que vous présidez depuis un certain nombre de temps la Cinémathèque française. C'est aussi pour ça que vous la présidez, parce que temple du film, mémoire du cinéma, temple de ce patrimoine hein, qu'est le cinéma et pas que français. La cinéphilie, est-ce que ça fait le cinéaste pour vous, Costa Gavras ? Est-ce qu'on peut être un grand cinéphile et un mauvais réalisateur, et peu cinéphile et un très grand réalisateur ?
On peut être les deux. On peut être les deux, on peut être tous là.
Mais aucun des deux, oui, probablement. Oui.
Mais je pense qu'il faut aimer le cinéma avant tout. Alors, cinéphile ou pas, ça c'est une autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment le cinéma sans être particulièrement cinéphile. Et ça, c'est une évolution absolument extraordinaire, je crois.
À la Cinémathèque, il y a eu cette exposition justement sur Méliès et la 3D. Vous êtes aussi, vous, un amoureux de la technique. C'est important aussi pour maîtriser ces films, de maîtriser à la fois la technique et l'art du récit.
C'est essentiel. C'est comme pour un peintre, il est essentiel de connaître les couleurs et le dessin. Pour un metteur en scène, c'est essentiel de connaître la technique pour bien l'utiliser et pour ne pas l'utiliser d'une manière spectaculaire, mais d'une manière qui correspond au sujet même.
Et quelle est votre palette à vous, justement, Costa Gavras ? Quels sont ces outils du cinéma que vous affectionnez particulièrement et qui font aujourd'hui votre patte de cinéaste ?
Les outils, c'est d'abord l'histoire, le scénario, et après, je n'appellerai pas ça un outil, c'est les acteurs. Pour moi, la passion, c'est les acteurs, parce que je pense que ce sont eux qui portent l'histoire, qui portent ce qu'on peut raconter aux spectateurs. C'est les premiers collaborateurs du metteur en scène. Après, ça vient des autres techniciens, naturellement.
Alors, le point commun entre tous vos films, on dit tous politiques, extrait de L'aveu, inspiré de la vie d'Arthur London, un militant communiste tchèque brisé par le stalinisme.
Vous êtes ici pour avouer vos crimes. Vous devez tout avouer.
Avouez quoi ? Qui êtes-vous ?
1er février.
Avouez vos crimes ! Avouez qui vous êtes !
Je suis le vice-ministre des Affaires étrangères.
Vous n'êtes rien du tout ! Vous n'êtes qu'un numéro ! Votre numéro ! Votre numéro !
Numéro 3225.
Posez-moi des questions précises. Qu'est-ce que
vous
me reprochez ?
Vous le savez très bien. Mieux que personne. Les hommes comme vous ont un nom. Quel est votre nom ?
Le parti connaît très bien.
N'invoquez pas le nom du parti. N'invoquez jamais le nom du parti. Vous êtes ici pour avouer et vous avouerez.
Je demande à voir un responsable.
Vous devez avouer vos crimes.
Mais avouez
vos crimes. Avouez. Posez-moi des questions précises. Vous avouerez.
Je vais voir un responsable.
Je vous ferai avouer. Vous avouerez.
Au début, on cherche à aider le parti. L'aider à voir clair. Voir clair en soi-même et comprendre pourquoi on est là. Quelle faute vous y a qu'en lui. On est tout disposé à faire son autocritique, à admettre des erreurs qui ont porté préjudice au parti. Les années de lutte et de discipline, toute notre éducation, nous portaient à croire que le parti ne se trompe jamais, que l'URSS a toujours raison.
Dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des conseillers.
Combien de fois avons-nous dit tout fiers de cette humilité qu'il valait mieux se tromper avec le parti qu'avoir raison hors de lui.
Avouez! Avouez vos crimes! Vous devez tout avouer!
Avouez vos crimes! Avouez toi! Posez-moi des questions précises!
Et les auditeurs auront notamment reconnu la voix d'Yves Montand. Où a été tourné l'aveu à Costa Gavras?
Initialement, il devait être tourné en Tchécoslovaquie, mais finalement, on a pas, à cause des tanks soviétiques, on n'a pas pu les tourner là-bas. On l'a tourné à Lille, au Tourcoing, et un peu au studio à Paris.
C'est un peu le cas de tous vos films. Par exemple, Z aurait pu ou dû être tourné en Grèce. Il a été tourné en Algérie.
Et en France, c'est ça, absolument. Bah oui, mais c'est le fait. Le sort de certaines histoires, vous ne pouvez pas se tourner au pays où ça s'est passé. C'est une preuve qu'il n'y a pas la démocratie. C'est une preuve aussi qu'il faut le faire, ces histoires-là. Parce que si vous pouvez se tourner au pays, bah, ce n'était pas la même chose.
C'est que ça aurait été rendu possible par une réalité ou une actualité qui ne justifiait peut-être plus du coup le film pour vous. Votre père, Costa Gavras, était militant, anti-royaliste, membre, je crois, du Front de Libération Nationale, qui était conduit à l'époque par les communistes en France aussi. Est-ce qu'il a fallu pour vous choisir votre camp, ou à travers vos films, vous n'avez jamais cherché à défendre une idéologie particulière?
Non, je suis resté loin des idéologies, et j'ai appris cela surtout quand je suis revenu en France et j'ai connu un milieu extraordinaire qui était celui d'Yves Montand, Simone Signoret, Chris Marker, etc. Et j'ai pu comprendre là qu'il fallait d'abord raisonner avant d'accepter une idéologie. Et je savais déjà que les Grecs antiques disaient que les idéologies naissent, grandissent et se meurent. Et il faut une nouvelle idéologie. Donc il n'y a pas d'idéologie éternelle.
Vous vous méfiez des idéologies, des dogmes, mais pas du combat, du militantisme.
Pas du combat, non, mais les idéologies sont nécessaires pour une société. On ne peut pas vivre une... On a dit beaucoup à un moment donné qu'on vivait dans une société sans idéologie. C'est déjà une idéologie, à mon avis. Donc il faut trouver une idéologie nécessaire et bonne pour la société.
Vous en avez une actuellement ?
Je cherche.
Vous la cherchez encore? C'est comme Dieu, en fait. Hein. Oui, oui. On peut passer toute une vie à chercher.
Absolument.
Et parfois à ne pas le trouver. Comme des sujets ancrés dans le réel et la société, ça, c'est les sujets que vous avez pu retenir pour vos films, sans suivre, vous l'évoquiez, de logique partisane, ne pas instrumentaliser le cinéma. Ça, c'était important aussi pour vous, Costa Gavras, ne pas en faire un outil de propagande, comme il l'a d'ailleurs à plusieurs périodes de l'histoire été, mais en faire un témoin de son temps, parler de politique au présent.
Il me semble, et c'est le rôle, ça peut être le rôle du cinéma, entre autres. Il est vrai aussi qu'il a été souvent utilisé dans les pays soviétiques, par exemple, à cette époque-là. On peut citer aussi des chefs-d'œuvre de Madame Riefenstahl, sous Hitler, qui a fait des grands films, malheureusement, qui étaient de pure propagande pour Hitler, et qui ont joué un rôle extraordinaire. Donc il faut que le cinéma reste loin de cela, loin des partis, et être libre surtout.
Loin des partis et proche du réel, le cinéma comme art du récit, c'est une des forces aussi de Z, premier volet de votre trilogie politique, sortie en 69, avant L'aveu en 70 et État de siège en 72, récompensé Z par l'Oscar du meilleur film étranger en 70, prix du jury et prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Dans Z, l'enquête judiciaire qui suit l'assassinat d'un député progressiste met en évidence l'implication du pouvoir, et notamment de l'armée et de la police dans cet assassinat. Vos films ont toujours eu aussi énormément de succès. Ça a été le cas très vite, Costa Gavras, avec Compartiment Tueur, votre premier film, qui ouvre d'ailleurs ce coffret, qui rappelle cette première période de votre vie cinématographique. Comment vous l'expliquez? Vous avez jamais souhaité réserver vos films à un cercle d'initiés, à une minorité convaincue?
Non, surtout pas. Ça, ce sont des films militants et je n'ai jamais voulu faire un film militant pour telle ou telle partie ou telle idée. Pour moi, le cinéma, c'est raconter des histoires. Raconter des histoires qui soient comprises par tout le monde. C'est un spectacle, le cinéma. Ça n'est pas un discours politique, ça n'est pas non plus un discours universitaire. Donc, j'essaye de faire les films comme j'aime les voir. Donc, ce sont des spectacles avec des bons acteurs qui interprètent les personnages, qui portent au public le thème, les sujets et ce qui se passe. Et je pense que c'est, en tout cas pour moi, la seule façon de faire un film.
Et faire des films populaires, pour vous, ce n'est pas un gros mot, populaire?
C'est un gros mot parce qu'on ne sait pas ce que c'est qui est populaire, on ne sait pas. Si on savait, vous savez, il y a un bon, très bon mot de Cocteau qui dit « on sait faire des grands succès, mais ne connaissons pas les règles ». Et c'est très bien comme ça.
Lors de la projection de Z au Forum des Images en début de semaine, lundi, le film a été vu par un public presque totalement renouvelé.
Tout jeune.
Presque 50 ans après. Non, un peu moins, 69 peu, ouais. Pour la diffusion.
On n'est pas loin.
Oui, bon, c'est ça. On est à 46, 47 ans après la sortie du film en France. Un public qui n'avait jamais vu le film et qui vous a littéralement ovationné après la diffusion du film. Ça fait de vous quoi, Costa Gavras, le nouvel idole des jeunes?
Non, c'était une grande émotion pour moi. Je ne m'attendais pas du tout, je m'attendais à un public qui sorte comme ça.
Il paraît, vous aviez les larmes aux yeux. Hein.
Mais c'était très très émouvant parce que la salle, je regardais, était tout jeune, enfin la grande majorité des jeunes, et qui réagissaient exactement comme ont réagi le public il y a précisément 47, 48 ans. Voilà, absolument.
Et comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui vous a ému? C'était l'idée de voir que vos films ne se démodent pas, quelque part, que le temps a beau passer, le propos peut rester aussi fort, que vous aviez vu juste, du coup,
non,
il y a près de
50
ans?
Non, je dirais plutôt, il y a des éléments dans le film qui correspondent à notre société d'aujourd'hui, malheureusement. Voilà. D'abord, quelqu'un qui est un juge qui fait tout pour que la vérité apparaisse, et puis aussi des éléments négatifs. Et tout cela, je pense, on fait que le public se retrouve aujourd'hui.
Il y a un mot qu'on entend souvent dans votre bouche, Costa Gavras, c'est le mot éthique. Vous dites notamment défendre une éthique de conviction et une éthique de la vérité. Pourquoi? Quelle vérité déjà? Le cinéaste a pour vous une dette envers qui?
Non, on a une dette envers les spectateurs. On ne peut pas tricher avec les spectateurs. C'est pour ça que j'insiste au mot éthique, au sens de l'éthique. L'éthique, quand on prend une histoire vraie, comme celle de Z, de l'aveu et quelques autres, il faut respecter, parce qu'au cinéma, on compresse le temps, on compresse l'histoire, mais il faut respecter dans cette compression l'éthique des personnages et l'éthique de la situation. C'est vrai qu'avec le cinéma, on peut beaucoup manipuler, on peut faire des choses. Et je l'évite chaque fois avec mes scénaristes, Saint Proun, Jean-Claude Grimbert et d'autres, j'ai insisté à ce qu'on reste dans la vérité, quitte à faire pâtir la construction du film et l'évolution du scénario.
Mais vous qui êtes très proche de l'idée de justice, Costa Gavras, vous savez bien qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a pas la vérité, il y a toujours des vérités. Et c'est peut-être là que le regard du cinéaste entre en jeu dans sa manière d'interpréter la vérité.
Absolument, de rester en tout cas à sa vérité, comme il voit lui-même, et le spectateur accepte ou n'accepte pas.
Donc fidèle à votre public et fidèle à vous-même.
Absolument.
Mm-hmm. Pourquoi ne pas avoir fait plutôt des documentaires s'il fallait être fidèle au réel?
Parce que d'abord, les histoires que je traitais, d'abord je sens que le documentaire c'est un genre très 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 difficile. On a beaucoup beaucoup de metteurs en scène de fiction en France, mais très peu de metteurs en scène de documentaires. C'est très difficile un documentaire, malgré ce qu'on peut penser. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'histoires, il n'y a pas suffisamment d'images pour faire un documentaire. Une autre chose aussi, la fiction permet de faire des métaphores, d'entrer dans des histoires d'une manière différente et conduire le spectateur, ou l'histoire plutôt, et amener le spectateur à les comprendre différemment.
On rembobine un peu le film. Comment tout a commencé pour vous, Costa Gavras? Le rêve, c'était de partir. En 65, vous quittez la Grèce pour la France. Vous faites vos classes avec Claude Pinoteau, René Clair, Jacques Demy, Henri Verneuil, entre autres comme assistants, avant de réaliser votre propre premier film. Ce sera donc Compartiment Tueur en 65, une affaire de famille avec un casting de stars. Montand, Signoret, Piccoli, Jacques Perrin, réalisé à la bonne...
Trintignant, oui.
Oui, Trintignant, oh là là. Réalisé le tout à la bonne franquette, façon années 60. 60. Simone parle de vous à Yves, qui parle de vous à Michel, ou du film en tout cas. C'est comme ça que se passaient apparemment les castings à ce moment-là. Avant de vous faire un nom, Costa Gavras, vous êtes le grec de cette petite famille du cinéma français qui vous a tout de suite adopté.
Très vite, très très vite. Je pense que ils trouvaient que je travaillais bien, que j'étais un bon assistant. Et de stagiaire, je suis passé à second assistant et premier assistant. Et ça a été vraiment une chance et une surprise formidable pour moi. Parce que j'étais accueilli dans un pays très très lointain du mien, accueilli comme si j'avais été français, carrément.
Mais en restant le grec.
On ne peut pas se débarrasser du pays où on est né. C'est impossible. Mais je suis quand même, le long des années, devenu un citoyen français et j'ai une sensibilité, je l'espère tout le monde, et une culture en tout cas, tout à fait française.
Et beaucoup d'amis français ont évoqué Simone Signoret et Yves Montand qui vous ont, avez-vous raconté quelque part, vraiment offert votre ticket d'entrée hein, dans le cinéma
Absolument.
Français, qui fonctionnait de manière un peu fermée, en vase clos à l'époque, on est dans les années 60.
Non, c'était pas en vase clos, mais c'est une sorte de famille, sinon une tribu, qui... dans laquelle on peut entrer difficilement parce qu'il faut avoir des raisons, il faut avoir peut-être être attiré, reconnu par quelqu'un ou avoir fait quelque chose d'intéressant. Moi, je suis entré par l'assistanat, peu à peu, et grâce à Claude Pinoteau, chez lequel j'ai fait un stagiaire, après il m'a dit je veux que tu sois mon deuxième assistant. Et puis après deuxième assistant, je suis devenu premier assistant, etc. Donc j'ai monté cette espèce d'échelle très compliquée, très difficile du cinéma. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile pour entrer dans le cinéma et de faire son film.
Qui sont aujourd'hui vos second assistants ou premiers assistants qui sont devenus des réalisateurs à part entière?
Il y en a quelques-uns qui sont devenus des réalisateurs.
À qui vous avez fait monter l'échelle? Qui oui. À qui pensez-vous?
Oh mon Dieu. Anne Cornot, par exemple. Avec Christiane Challonge aussi. Enfin, d'autres aussi, comme ça. Il y en a quelques-uns.
Simone Signoret et Yves Montand. Alors Simone Signoret, on la retrouve dans ce coffret, je le disais, il y a 9 films. On va jusqu'au milieu des années 80. Il y aura un deuxième volume pour raconter la deuxième partie de votre vie de cinéma, Costa Gavras. On retrouve donc Simone Signoret dans deux de ses films, Compartiment tueur et L'aveu, Jacques Perrin dans 5 de vos films, et puis Palme d'or de la tête d'affiche, je crois, Yves Montand, dans 6 des 9 films de cette période présentés dans ce coffret Costa Gavras, diffusé et édité par Arte. Une longue amitié de cinéma entre vous deux, Yves Montand par Costa Gavras.
Les empreintes sont mauvaises. Elle s'appelle Georgette Thomas, 30 ans, mariée à 20, divorcée à 25. Représentante démonstratrice des produits de beauté Barlin. Habite 3 rues du Sud, entre des démonstratrices à Marseille. Elle était descendue à l'hôtel Rex. Elle gagne 922,85 francs par mois, charges sociales déduites, argent liquide dans son sac, 342 francs plus $1 canadien. Canadien. Le vol ne paraît pas le mobile du meurtre.
On m'a frappé. Pourquoi ? Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Pourquoi la paix leur est-elle aussi intolérable? Pourquoi ne s'en prennent-ils pas à d'autres organisations et mouvements? La réponse est simple. Les autres mouvements sont purement nationaux, à usage interne, et laissent indifférents.
L'état de santé de Monsieur le consul du Brésil est satisfaisant. Le fonctionnaire américain a été blessé au cours de l'action par une arme à feu. En attendant, l'interrogatoire des prisonniers se poursuit.
La présence de l'AID était prévue par les accords internationaux. Votre tâche consistait à réorganiser la police et à rétablir l'ordre.
Quel type d'ordre, Monsieur Santoré?
L'ordre civil, qui est le contraire du chaos, des vols et du pillage.
Vous voulez parler de l'ordre de la United Fruit Company?
On finit inévitablement par parler politique.
Inévitablement.
Allô? Allô, oui. Je voulais vous dire que l'état de confusion est tel que toutes les décisions se traduisent par des actes contraires et que je vous dois donc une explication.
Je sais bien que lorsqu'on ne se connaît pas, tout paraît possible. Mais vous pensez bien que je ne vais pas vous parler d'amour ni même d'amitié.
seulement d'entraide.
Écoutez, Michel. C'est bien Michel ?
Oui, c'est Michel. C'est moi qui vous ai bousculé tout à l'heure en sortant du taxi. Vous vous souvenez ?
En écoutant Costa Gavras, ses extraits de Compartiment Tueur, Z, État de siège et Clair de Femme avec Yves Montand, il y a un souvenir qui vous remonte particulier de ces tournages, de cette amitié ?
Non, c'est très émouvant. C'est des moments formidables parce qu'on s'est très bien entendu avec Montand très vite, avec Compartiment Tueur déjà. Il ne voulait pas faire un policier. À l'époque, c'était difficile. Et je lui ai proposé de le faire avec l'accent du Midi. Je lui ai dit, c'est un masque, comme ça tu te libères. Il a accepté. Et à condition qu'on puisse doubler le film si ça n'allait pas. Et après les premiers jours de tournage, il m'a dit, on continue avec l'accent. C'était une relation formidable. Et puis après, c'est devenu une amitié familiale, etc.
Parmi les amis de ces années-là, citons aussi Georges Semprin, le oui. scénariste de L'Aveu, de Z et de Section Spéciale, Françoise Bonneau, la monteuse aussi d'Henri Verneuil. Il y a deux semaines, il y a Raoul Coutard qui est mort, qui est décédé. C'était le 8 novembre dernier. Il a été le chef opérateur de La Nouvelle Vague, mais il a aussi été le vôtre. Il a tourné avec vous Z et L'Aveu. Sur le vif, on peut évoquer son travail en ces mots. C'était quelqu'un qui savait capter très vite les choses.
Extraordinaire personnage, où il comprenait très vite l'histoire. Et il suivait le style que le metteur en scène voulait faire. Par exemple, pour Z, moi, je voulais faire un style documentaire complètement et tourner rapidement. Puis il le fallait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Après, pour L'Aveu, il fallait un film beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus classique, je dirais. Et il a suivi ce style aussi. Et on aurait continué si faire d'autres films avec lui, mais il a commencé à devenir metteur en scène lui-même. Il a fait un film, donc on s'est séparés malheureusement. Mais c'est un grand personnage du cinéma français et mondial, parce qu'il a influencé les chefs opérateurs du monde entier avec son travail.
Alors la planète du cinéma Costa Gavras, les amis, est très large, on ne pourra peut-être pas tous les citer, mais il y a quand même aussi les compositeurs avec lesquels vous avez aimé travailler. Pas un compositeur attitré, hein, on ne peut pas dire ça pour vous Costa Gavras, mais il y a eu Mikis Theodorakis sur Z et État de siège, plus tard hein, Philippe Sard sur Music Box, Anaka c'était Gabriel...
Yared, absolument.
Et puis Vangelis, quand même.
Vangelis aussi, hein, pour Missing. Ouais. Et dernièrement, pour les derniers films qui ne sont pas dans ce coffret, si on a l'autre, c'est Armand Amar.
On écoute quelques notes de la bande-son de Missing, composée justement par le grec Vangelis Papatanas.
Siou.
Vous le faites beaucoup mieux que moi. Il est l'auteur de la musique donc de ce film. Il a également, bien plus tard, juste pour les auditeurs, aussi composé celle de Blade Runner de Ridley Scott. De Missing, Costa Gavras, vos films ont quelque chose tous de la tragédie grecque, c'est pas pour rien peut-être, et pourtant sur cette période qui va jusqu'au milieu des années 80, aucun de vos films n'ont été tournés en Grèce. On disait qu'en 65 le rêve c'était d'en partir, aujourd'hui le rêve c'est d'y revenir.
Aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de jeunes qui partent, vu la situation économique. Il y a une période où les jeunes grecs sont retournés, beaucoup d'entre eux. Mais malheureusement actuellement c'est le contraire, donc c'est une autre forme d'appauvrissement pour la Grèce.
Et pour vous, cinéaste, vous avez envie d'aller tourner là-bas ?
Oui, bien sûr, je cherche une histoire, mais enfin, il y a beaucoup de jeunes Grecs qui font des histoires du pays. Moi, je vis très loin pour pouvoir reproduire, de refaire, si vous voulez, la vraie histoire grecque actuelle. Mais j'y pense souvent, souvent.
Pour terminer, dans Le Capital, en 2012, là, sur la période d'après, vous vous attaquiez, entre guillemets, au monde de la finance, au libéralisme, dans Eden à l'Ouest. C'était la question des réfugiés, des migrants qui étaient au cœur de cette fiction, de votre film. Contre quoi s'indigner aujourd'hui encore, Costa Gavras ?
Le fait que l'Europe n'est pas celle à laquelle on a rêvé. C'est bien triste. Et j'espère que les nouveaux dirigeants, qui vont être élus bientôt, en France et ailleurs d'ailleurs, vont rectifier cette histoire, parce que c'est inacceptable qu'on détruise l'Europe.
Journée spéciale Costa Gavras, ce sera le samedi 17 décembre de 11h à 23h au cinéma Luminor dans le 4e à Paris, en votre présence. Et ce beau coffret, premier volume donc d'une intégrale qui vous est consacrée, Costa Gavras, et qui est paru chez Arte. Restez avec nous tout de suite, c'est François V.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
François V, notre partenaire du Parisien Magazine, on commence tout de suite avec une expo étonnante.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui je voudrais vous inviter à rejoindre l'artiste italien Maurizio Cattelan qui s'est emparé de la Monnaie de Paris. Dès qu'on approche de ce vénérable bâtiment du Quai de Conti, on se voit interpellé par une série d'oriflammes noires proclamant « subversif, vital, puissant, paradoxal, libre, moqueur ». Je ne vous cite que ceux qui collent le mieux à cette installation d'art contemporain. Arrivé dans l'entrée monumentale, un grand cheval empaillé se trouve suspendu au-dessus de nos têtes et on est accueilli dans le grand salon d'apparat par le pape Jean-Paul II qui gît dans la grande salle terrassée par une météorite, tandis qu'un jeune garçon, juché au sommet du balcon, nous surprend par des roulements de tambour. Ce sont des mannequins en résine et polyester, faut-il le préciser. Bienvenue donc dans l'univers de ce plasticien et photographe né en 1960, dont on pourrait dire qu'il se situe au croisement de Marcel Duchamp et de Andy Warhol. Cattelan avait prétendu se retirer de la scène artistique mondiale en 2011 à New York, après une exposition au Guggenheim. Et bien voilà qu'arrive celle de Paris, Not Afraid of Love. L'amour n'y saute pas aux yeux, mais ça ne fait pas peur, simplement... Son humour s'avère parfois grinçant, l'artiste s'y est représenté à de multiples reprises au long du parcours, accroché au portant d'une porte, surgissant d'un trou, comme s'il s'était évadé et se retrouvait au milieu d'une salle à manger, ou couché dans un petit lit avec son double, toujours en format enfantin. Et visiblement, l'enfance de Maurizio Cattelan n'a pas dû être heureuse quand on découvre un garçon les mains clouées sur son pupitre d'école, la tête recouverte d'une capuche. Bref. On chemine ainsi d'émotion en émotion, il y en a pour tout le monde, et même pour les enfants, car un petit livret leur est proposé, où l'on présente Maurizio Cattelan comme un sacré farceur, ce qu'il revendique, avant de le guider dans cette exposition qui n'est pas que récréative.
Pas que, mais c'est quand même un sacré garnement avec une âme d'enfant. En tout cas, vous faites beaucoup sourire Costa Gavras. François V, vous vouliez aussi nous recommander un film dont on n'a pas parlé dans la grande table, le film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest.
Oui, formidable. Tout à fait. Mais écoutez,
formidable, nous dit Costa Gavras.
Mais oui, je pense que...
C'est recommandé pour le week-end.
Mais tout à fait, on est dans la lignée. Voilà un film qui est fort dans son propos, qui est efficace dans sa forme. Il est en salle depuis hier. Il retrace, je vous le rappelle, le combat du docteur Irène Frachon pour dénoncer les méfaits du Mediator. La très bonne idée d'Emmanuel Berco, c'est d'avoir confié le rôle de la danseuse. De la lanceuse d'alerte, décidément, à une actrice danoise, Sisse Babette Knudsen, j'espère ne pas avoir écorché trop son nom, elle s'exprime dans un français impeccable, avec une pointe d'accent. L'autre mérite du film, c'est de rendre intelligible un dossier d'enquête médicale d'une complexité certaine. C'est toujours un bel enjeu de cinéma que d'arriver à rendre compréhensible ce genre d'histoire. D'habitude, ce sont les Américains qui réussissent formidablement bien à nous expliquer de tels sujets. Et bien là, nous avons deux scénaristes françaises à la manœuvre, Séverine Bochem et Emmanuel Berco, qui s'en sortent mieux que bien. Elles ont su insuffler au film une tension dramatique qui fait que cette volonté de faire éclater ce scandale nous emporte, un peu comme dans le fameux film Erin Brockovich, qui reste la grande référence.
Un grand merci à vous, François V. Votre chronique est à retrouver dans le podcast La Réécoute de La Grande Table, première partie. Merci à vous, Costa Gavras.
Merci à vous.
Merci mille fois.